Monsieur Alexandre Desilets, Jardin Dead End. Bon, c'est sûr que la saison de la photographie, ben, c'est plus stimulant peut-être l'été parce qu'on est souvent à l'extérieur, puis qu'on voyage. Puis là, on a des belles chances, des belles occasions de faire de la photo, si bien que là, on commence à regarder ben, notre appareil. Hein? On dit, peut-être que c'est le temps de changer. Mais il faut dire qu'il y a d'abord un choix phénoménal de type d'appareil, mais aussi des prix qui peuvent être parfois phénoménaux. Donc, on va se tourner vers des appareils usagés. Mais comment choisir son appareil, qu'il soit neuf ou usagé? Mais en particulier, est-ce qu'on peut trouver des bonnes occasions? Bien, nous allons en parler avec M. Éric Constantino, fondateur de ericconstantino.com et lui-même photographe et amateur d'appareils photo. Bonjour, Éric.
Bonjour, Michel.
T'en as combien?
Grand amateur d'appareils.
Oui, j'ai vu chez toi. T'en as combien? Je ne sais pas compter, là, mais...
Il m'en reste seulement qu'une centaine. Il m'en reste seulement qu'une centaine.
Une centaine? La moitié, c'est...
Ce sont tous des appareils photo que j'ai utilisés. Donc, j'aime à dire que c'est pas vraiment une collection, mais un coffre d'outils.
Oui.
Parce qu'une fois de temps en temps, j'en utilise un encore. T'sais. J'ai un plaisir fou à utiliser des vieux appareils. Puis j'ai exploré, là, les appareils depuis les tout débuts. Hein, des grosses affaires en bois avec des soufflets. Il fallait mettre une cape puis avec une petite loupe pour faire le focus.
Il n'y avait pas une poudre chimique qu'on faisait exploser aussi?
Ça, c'était les flashs. Il n'y avait pas de flash bulb. Là. C'était effectivement du permanganate de magnésium, quelque chose comme ça.
Mais il y a dû y avoir des accidents.
Oui, il y a eu beaucoup d'incendies à cause de ça.
Mais je comprends.
Oui. Puis ça a pris, je pense, une quarantaine d'années avant qu'il allume puis qu'il fasse un flashbulb.
C'est le cas de dire.
Mais ils ont fait un flashbulb peut-être une quinzaine d'années après le permanganate, là. Mais c'était pour faire la photo sous-marine. Parce que la peau ne pouvait pas brûler en dessous de l'eau. C'était ça la raison. C'était pas à cause des incendies.
Mais non, pratico-pratique quand même. Mais là, je reviens la question fondamentale. Bon, les appareils usagés, tu dis, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de bonnes occasions, mais en même temps, je ne sais pas, il me semble que la technologie évolue beaucoup plus rapidement qu'il y a une vingtaine d'années, si bien que là, un appareil usagé qui pourrait être une bonne occasion, on se pose la question, est-ce une bonne occasion parce qu'ils deviennent rapidement désuets? Est-ce que c'est exact?
Bien, c'est-à-dire que oui et non. Comme il y a une vingtaine d'années, moi je me rappelle, bien, il y a peut-être 25 ans, là, au début là, de l'avènement là, du numérique, là, vraiment, là, quand ça commençait à rentrer, on achetait un numérique. Hein? Et puis l'année d'après, c'était pas que c'était fini, mais c'était tellement dépassé déjà en une année qu'il fallait, c'était mieux d'acheter un nouvel appareil que de garder celui de l'année d'avant. C'était pas comme dans les années comme 80, on achetait un appareil photo, on l'avait pour 10-15 ans sans problème. Hein? Mais maintenant, c'est arrivé un petit peu comme ça, c'est-à-dire que les appareils photo, ils ont tellement une bonne résolution maintenant depuis 5-6 ans au moins, là, que pas mal tous les appareils depuis 5-6 ans là, sont tout à fait corrects pour à peu près tous les besoins là, généraux. Là. C'est sûr que si on veut être dans une niche, là, on a certains besoins très spécifiques. On fait de la photographie, du photojournalisme, des photos d'activités sportives, des choses comme ça. Là, c'est peut-être un petit peu plus... On peut toujours utiliser un appareil d'il y a 5 ou 6 ans, mais on a avantage quand même à aller chercher quelque chose de plus moderne, de plus performant au point de vue de l'autofocus, par exemple, que les algorithmes sont plus poussés pour être capable de faire le focus, de traquer le focus au bon endroit, etc. T'sais? Mais en général, là, un appareil photo d'il y a 5-6 ans, il n'y a pas de problème. Là.
Est-ce qu'on peut dire, Éric, qu'aujourd'hui, les appareils numériques d'entrée de gamme sont supérieurs aux appareils sophistiqués numériques d'il y a 20 ans?
Ah, totalement. Totalement. Ça, c'est clair. Là. Premièrement, point de vue de la résolution, de la qualité d'image, puis de toutes les... ça s'est miniaturisé encore un petit peu. Hein?
Oui.
Donc, il y a des constructeurs qui sont un peu plus petits. Là, je parle, par exemple, au Olympus, c'est des appareils un petit peu plus compacts. Panasonic, Fuji, qui ont de l'extrêmement bonne qualité. C'est quand même très compact. On n'a plus besoin d'avoir des très grands capteurs là, pour avoir une qualité d'image là, tout à fait correcte.
Quand on parle de grands capteurs ou de capteurs précis, c'est combien de mégapixels?
Ben, c'est la taille du capteur aussi. Là.
Le grand format. Là.
Oui, il y a des moyens formats là, comme Hasselblad, Phase One, Pentax en a fait un certain temps. Aujourd'hui, il y a Fuji qui font à la fois du grand format et puis du format APS-C qui est un peu plus petit. Moi, je vais l'avouer, je suis un fan de leur caméra là, parce que c'est point de vue qualité-prix, c'est vraiment excellent.
C'est le meilleur rapport qualité-prix?
Oui, j'ai eu du Nikon pendant très longtemps. J'ai eu du Canon, j'ai eu du Panasonic. J'ai eu à peu près tout, finalement, du Leica.
Déjà, vraiment essayé, là, pour dire...
Ah oui. Puis, ben c'est ça, c'est pour acheter aujourd'hui, usager, ça... On a des avantages. Puis, il y a quelque chose aussi qui est en train de se passer, comme je disais peut-être déjà il y a quelques semaines, là. C'est qu'on est comme dans une révolution en ce moment. On est en train de changer de type d'appareil photo en ce moment. On arrive dans le monde sans miroir. Puis ce qui arrive, c'est que c'est un changement de système. Quand on achète notre premier appareil photo, là, on n'achète pas juste un appareil, on achète un système.
Mais un peu comme les ordinateurs ou les tablettes. Hein?
Oui,
Certains travaillent en environnement PC, d'autres Apple.
C'est ça.
Quand on change d'un environnement à l'autre, ça demande une adaptation.
Une petite adaptation, c'est sûr que bon, les claviers, ça se ressemble pas tout, hein? Ça se ressemble pas mal souvent, là, ouais. les boutons. Hein? La photographie, la base, c'est toujours la même chose. Hein? Le triangle, là, l'exposition, donc la vitesse, la sensibilité en ISO, puis l'ouverture. C'est juste les caméras, ils ont certaines petites choses un peu différentes, là, comment ils vont traiter ça. Mais quand on maîtrise la base, il n'y a pas de problème. On peut passer d'un système à l'autre, on va lire le manuel d'instruction pour être correct. Là. Mais...
Dans le cas de l'arrivée des caméras sans miroir, ça fait deux choses. La première, c'est qu'on doit un petit peu retourner au banc d'école, relire son manuel d'instruction parce que c'est une autre technologie. Mais ça offre des aubaines, finalement, parce que les appareils avec miroir deviennent plus caduques, là.
Ils deviennent plus abordables, justement, parce qu'ils sont un petit peu plus lourds pour à peu près la même chose, là. Ça commence à être un petit peu plus vieux. Puis les lentilles, ben, c'est parce que quand on change de... Même si on reste, par exemple, dans le Nikon ou dans le Canon, là, puis qu'on passe à un sans-miroir, ben c'est plus la même monture de lentilles. Donc, on peut venir adapter nos anciens objectifs sur les nouveaux appareils. Mais bon, moi, je conseillerais toujours de prendre les objectifs qui ont été designés pour les nouveaux appareils. On a le choix maintenant, là, de tellement d'objectifs. On peut les adapter. Là. On peut même adapter là, des vieux appareils, par exemple, des vieux objectifs des années 50, là. Comme si je parle du Nikon, des Nikkor S des années tranquilles. Là, on peut venir avec une bague puis mettre ça sur un appareil moderne, mais évidemment, il n'y a pas d'autofocus. Là.
Non.
Hein, mais il y a quand même beaucoup de possibilités.
Donc là, actuellement, le marché est pas mal pour les appareils avec miroir parce que le marché est de l'usager et on peut avoir de bonnes offres finalement. Là.
Oui, puis le sans-miroir, ça fait déjà quelques années que ça existe. On est déjà rendu à quelques générations. Donc déjà en ce moment, là, il y a des appareils sans-miroir qui sont disponibles usagés. On peut faire le saut, là... puis comme je disais, ben c'est ça. Si on achète là, que ce soit un sans-miroir ou un réflexe, ben on choisit un système. Hein. Si on a déjà des lentilles là, d'un système, ben on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va adapter nos anciens objectifs avec des bacs d'adaptation? Est-ce qu'on change de système? C'est une bonne réflexion, là, un peu comme quand on achète notre premier appareil, vu que la technologie est en train de changer, bien, on peut, un, profiter soit justement d'acheter la technologie vieille de quelques années, comme ça c'est un peu moins cher, ou si on passe là, au sans-miroir, bon, ben à ce moment-là, c'est comme acheter un nouveau système. Là.
Oui, absolument.
On peut en profiter.
Il y a des cours qui se donnent aussi, si on veut vraiment là, apprendre à maîtriser ce nouveau mode de fonctionnement. Mais je reviens à maintenant l'achat d'un appareil usagé, que ce soit sans miroir ou probablement plus avec réflexe, avec miroir, parce qu'il y en a beaucoup plus de disponibles. Les prix sont peut-être plus abordables pour la plupart des gens. Comment on fait pour savoir si l'appareil est encore en bonne condition? Parce que si on n'est pas un spécialiste, on ne sait pas. Bien, un appareil, mais on ne sait pas. Là.
Des petits trucs, là, ben, évidemment, si c'est possible d'avoir une garantie, Des fois, quand on achète un appareil là, sur des sites là, de revente, là, ben, des fois, il n'y a pas de garantie.
Non. Hein.
Mais si on achète là, dans des magasins qui vendent de l'usager, des fois, ça peut être un petit peu plus cher, mais ils peuvent avoir une garantie de 3 mois, par exemple.
Mais ils l'ont inspecté, t'sais? Au moins.
Oui, puis ils l'ont inspecté aussi. Ils vont commencer à vendre du stock qui est brisé. Là. Mais de faire une petite évaluation soi-même, là, bon, prendre l'appareil dans ses mains. Premièrement, la prise en main. Est-ce que
ça vous convient?
Vous êtes confortable? Ça vous convient? Oui. À vous, des petites mains, des grosses mains, est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous sentez bien à regarder dans le viseur? Ensuite, bon, est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il fait l'autofocus? Est-ce que ça fonctionne? T'sais? Si on prend une photo, vous pouvez amener une carte mémoire, là. Mettre une carte mémoire dedans.
Mettez
prendre
ça
deux,
dedans,
trois photos.
Là, oui, faites ça en rafale là, pour vérifier s'il fonctionne bien.
Oui, bon, et puis, ben c'est ça. Puis vous pouvez aussi essayer des caméras là, dans les magasins. Essayez-en deux, trois. Essayez. Tu sais, si vous n'en avez pas touché du tout, là, allez les prendre dans vos mains. C'est souvent là que ça se passe. Hein.
C'est vrai que c'est un aspect important, l'ergonomie d'un appareil.
Oui, oui,
hein? Ça nous convient ou ça ne nous convient pas, là, mais c'est
important. On magasine en ligne, là, on ne l'a pas dans ses mains, on ne réalise pas, ah, c'est ben trop gros ou il est ben trop petit, les boutons ne sont pas bien placés. Il faut vraiment le prendre dans ses mains.
Quand ils sont deux à livrer l'appareil, c'est peut-être parce qu'il est pesant un peu.
Ça vient sur une palette.
Bon, mais donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller prendre conseil auprès d'un magasin, de commencer à regarder les appareils. Parce que, évidemment, quand on ne connaît pas ça, que ce soit un appareil avec miroir ou sans miroir, dans les deux cas, on va chercher d'informations auprès des détaillants, puis on pose des questions. Donc, on sait au moins minimalement ce qu'on doit regarder.
Oui, oui, oui. Puis, évidemment aussi, ça va avec quel genre de photos que vous faites. Hein? Si vous explorez, la majorité des gens, on va explorer un peu différents types de photos. T'sais, on va faire de la photo d'animaux, de la photo d'événements, des souvenirs, des voyages. À un moment donné, on commence à faire des contrats, par exemple. Hein? On fait du corporatif, du portrait, du studio, des événements. Bon, ben ça devient un peu plus
niché. Ça dépend de ce qu'on prend, là.
Les besoins vont se développer avec le temps.
Ouais.
Si on explore la photo macro, c'est un autre monde, etc. Donc, ça va aller, là, on parle de ça, là, avec le conseiller dans un magasin ou dans un club photo. Il hein? Y a d'autres membres des clubs photo qui font
ça,
avoir des conseils.
Puis il y en a à vendre aussi des appareils, fait que c'est intéressant. Et puis, parce que tous les appareils offrent des caractéristiques, mais sauf qu'est-ce qu'on en a besoin? T'sais, photographier une mouche à toute vitesse, c'est peut-être pas tout le monde qui va faire ça non plus.
Là, non, c'est pas les mêmes besoins que photographier une fleur qui bouge pas.
c'est très intéressant. Merci, Philibert. Alors, de toute façon, les gens qui veulent en savoir davantage ou se renseigner sur la photo, il y a toujours ton site, ericconstantinou.com. Merci beaucoup, Éric. On se reparle la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Merci. Au retour, Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse, est avec nous.